Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Banque avec vous à chaque étape.
Priorité Santé. Raphaël Constant.
Bonjour et bienvenue dans Priorité Santé. Brûlures au moment d'uriner, envie fréquente d'aller aux toilettes, vessie douloureuse, sensation de pesanteur dans le bas du ventre. Dès les premiers signes, la crainte de l'infection se fait sentir. La crainte de l'infection urinaire. En France, les infections urinaires représentent le second motif de consultation et les jeunes ne sont pas épargnés. Le plus souvent provoqué par la bactérie Escherichia coli, c'est une pathologie qui touche 50 fois plus les femmes que les hommes. Pourtant, nombreux sont celles et ceux qui tardent à en parler à leur médecin, parce que pour beaucoup, c'est un problème de santé qui touche à l'intime, et que pour d'autres, il n'est pas simple d'aborder ce genre de gêne. Mais les conséquences peuvent être problématiques. Non seulement les infections urinaires altèrent fortement la qualité de vie, mais il y a en plus des risques de complications si la prise en charge est tardive. D'où l'importance de déconstruire les tabous, d'expliquer que des moyens de prévention existent, et c'est ce que nous allons voir tout de suite au cours de notre émission avec nos invités. Le docteur Ruxandra Kaline, infectiologue à l'hôpital Tenon à Paris, chercheur au sein de l'équipe Inflammation et Immunité des Muqueuses à l'Institut Cochin-Pasteur et au Centre d'Immunologie et des Maladies Infectieuses de Sorbonne Université. Et nous retrouverons en ligne du Gabon, docteur Jean Massandé, chirurgien, urologue, andrologue, président de la Société Gabonaise d'Urologie et ancien chef de service d'urologie au CHU de Libreville. Alors, quelles sont les causes et les différentes formes d'infection urinaire, comment les soigner? Priorité Santé, vous avez le programme, bienvenue. Et bien sûr, vous avez la parole, on attend vos questions, vos témoignages sur notre numéro WhatsApp 33 7 61 18 46 41.
Priorité Santé sur RFI.
Avant de parler de notre sujet du jour, nous sommes aujourd'hui à J-100 des Jeux Olympiques de Paris. Place à la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport et auteur du livre « Le sport, je me lance » aux éditions InPress. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Docteur Sen, vous avez été médecin de l'équipe de France de judo. Et d'ailleurs, plusieurs des athlètes que vous suiviez à l'époque concourent encore pour cette édition 2024. Quand on est précisément à cette échéance de l'événement, qu'est-ce que l'on peut dire sur le suivi des athlètes? Comment les sportifs vont être accompagnés sur le plan de la santé jusqu'au début de la compétition?
Alors, c'est vrai que c'est un suivi quotidien des athlètes. Le médecin de l'équipe de France va passer quotidiennement voir les athlètes sur leur lieu d'entraînement. On parle de dojo, c'est le lieu d'entraînement des judokas. L'objectif, c'est de suivre les bobos, de faire de la prévention et surtout de prendre en charge le plus tôt possible une blessure qui pourrait entraver la course de préparation vers les JO. Alors le médecin a aussi un rôle de coordinateur de l'ensemble des intervenants médicaux, les consultants spécialistes, kinésithérapeutes, psychologues, nutritionnistes, préparateurs physiques. L'objectif, c'est de faire en sorte que les soins soient les plus efficaces et qu'il y ait une bonne synergie vraiment entre les différents intervenants. Puis enfin, le médecin de l'équipe de France a un rôle également de consultant au sein du comité de sélection. Le comité de sélection, c'est une instance officielle de la fédération qui a pour rôle de définir qui sera sélectionné pour les Jeux Olympiques. C'est une lourde responsabilité. Et le médecin de l'équipe de France y siège pour identifier s'il existe pour les athlètes proposer un obstacle médical à la préparation sportive intensive qui sera nécessaire en vue de la performance aux Jeux Olympiques.
Vous venez de parler, docteur Sen, de possibles blessures ou douleurs avant les JO. Dans ces cas-là, il faut bien sûr faire très attention aux médicaments prescrits pour éviter à l'athlète d'être positif au contrôle antidopage.
Absolument. Il existe une liste de médicaments et de méthodes interdites que le médecin, évidemment, doit absolument connaître parfaitement. Et évidemment, les médicaments qui sont utilisés, toutes les techniques thérapeutiques, ne doivent absolument pas être interdites pour pouvoir, évidemment, suivre ces athlètes.
Et en termes de nutrition, est-ce que les athlètes adoptent un régime spécifique ou est-ce qu'il s'agit d'une approche au long cours et non spécifique pour la compétition ?
Eh bien, alors effectivement, en fonction des sports, évidemment, l'aspect nutrition est plus ou moins important. Alors évidemment, c'est extrêmement important pour les sports à catégorie de poids, où ça c'est déterminant, et où il va y avoir un véritable suivi quotidien pour être sûr que le sportif ne dépasse pas un certain poids pour pouvoir rentrer dans sa catégorie. Mais c'est vrai également pour tout sport, bien évidemment, puisque l'alimentation est un des paramètres de la performance. Alors pour ça, évidemment, il y a un suivi nutritionnel qui est effectué par un ou une nutritionniste qui va accompagner l'athlète sur cela. Il y a des réserves, bien évidemment, au centre de sport de haut niveau qu'on appelle l'INSEP, mais ça peut très bien être un ou une nutritionniste qui est en dehors de cette structure et qui accompagne les athlètes.
Et Dr Sen, sur le plan de la gestion du stress, est-ce qu'il y a, avant les épreuves, un accompagnement particulier ?
Bon, il faut savoir que, évidemment, il y a un développement aujourd'hui du suivi psychologique et de la préparation mentale, de manière générale, dans le sport. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très bien. Il existe même une unité de suivi psychologique au sein de l'INSEP, hein, l'Institut National du Sport et de la Performance. Et évidemment, chaque sportif peut également, en dehors de ce centre, aller chercher une personne qui lui corresponde, hein, si besoin. Alors ça, c'est un progrès assez récent, mais qui est absolument déterminant pour aider les athlètes à gérer leurs émotions, leur stress, et puis la pression particulière qui va être liée au déroulement, bien sûr, des Jeux Olympiques à Paris, évidemment, et arriver ainsi à performer au mieux lors de la compétition. Et puis, évidemment, ce qui est très important, et il ne faut pas l'oublier, la prévention va être absolument majeure, hein. Et donc, l'idée, ça sera de faire la prévention du dopage, évidemment, et pour ça, travailler avec l'AFLD, l'Agence française de lutte contre le dopage, où de la prévention est faite et où on accompagne l'athlète qui, à chaque fois qu'il va prendre un médicament, va normalement se tourner vers son médecin pour dire « Bon, est-ce que j'ai le droit de prendre ou pas ?» Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Ou un complément alimentaire, il faut faire attention parce que ça peut poser problème aussi. Et de manière plus générale, c'est la récupération, bien sûr, qui va être vraiment essentielle et qui doit être organisée de manière individuelle parce qu'elle n'a pas la même performance en fonction de chacun, afin que le corps et l'esprit se reconstituent après des efforts intensifs, hein, que demande la préparation aux Jeux Olympiques. Alors, bain froid, bain chaud, jacuzzi, massage, étirement, hydratation, qualité du sommeil, moment de détente, tout est mis en place pour se sentir bien. Ça donne envie de concourir pour les Jeux Olympiques, presque.
J-100 des JO de Paris. Merci, Dr Sen, et à la semaine prochaine dans Priorité Santé. On vous retrouve, Dr Ruxandra Kaline, pour cette émission consacrée aux infections urinaires. Un peu de pédagogie, si vous voulez bien, pour commencer. Comment fonctionne l'appareil urinaire pour comprendre les troubles associés ?
Oui, bonjour. Merci de m'avoir invitée. Alors, l'appareil urinaire, la vessie est une poche qui a des parois qui sont faites de muscles. C'est un muscle qu'on ne contrôle pas volontairement. C'est un muscle qui a un fonctionnement dicté par le système nerveux végétatif. Ce muscle, donc cette poche, accueille les urines qui sont fabriquées par les reins pour éliminer tout ce dont le corps n'a plus besoin. Et ensuite, donc, cette poche se détend pour accueillir les urines. Et quand les urines à l'intérieur ont atteint un certain volume et il y a une certaine pression, le muscle va se contracter et va déclencher la sensation d'envie d'uriner. Là, il y a un premier aspect important à retenir. Si on s'empêche d'uriner quand on a envie, dans le temps, ce muscle va se fatiguer et ça va avoir des conséquences négatives sur le fonctionnement de la vessie qui peuvent, à la limite, dans les cas les plus graves, carrément empêcher la contraction de ce muscle et rendre la vessie non fonctionnelle.
Donc, sur le long terme.
Sur le long terme. Mais bien sûr, ça n'arrive pas tout de suite, mais sur toute une vie, si on s'empêche d'uriner et si on va uriner deux fois par jour, ça risque d'avoir des conséquences négatives.
Alors, ça veut dire qu'il faut uriner à quelle fréquence, en fait ?
Alors, on dit plus de 4 fois par jour. Ça va dépendre, bien sûr, de la quantité de liquide qu'on boit. Et ça, c'est un aspect très important parce qu'on doit boire tous au moins 1,5 litre d'eau par jour, ce qui n'est pas toujours le cas. Et on va revenir, je pense, là-dessus, mais c'est une des causes très, très, très fréquente qui déclenche une infection urinaire.
Une infection urinaire, parce que les bactéries aiment être dans des...
Exactement. Et parce que le corps, quand il n'a pas eu la quantité de liquide dont il a besoin, sait comment extraire le liquide qui est dans la vessie. Donc, on va se retrouver avec des urines concentrées. Tout le monde sait, quand on ne boit pas, qu'on a des urines concentrées, c'est parce qu'en fait, le corps, il a essayé de récupérer tout dont il a besoin. Et ça, les bactéries adorent, des urines concentrées. Qui reste au chaud.
On va parler des causes et des symptômes, évidemment, dans un instant. Mais d'abord, quelles sont les différentes infections urinaires et est-ce que ce sont les mêmes chez les femmes et chez les hommes ?
Alors, il y a des infections urinaires qui sont communes entre les femmes et les hommes, mais il y a des différences aussi. On parle surtout chez la femme de la cystite. La cystite est une infection qui est cantonnée au niveau de la vessie, donc c'est la multiplication des bactéries a lieu uniquement dans la vessie. Ça, c'est ce qu'on appelle la cystite. On parle de la cystite surtout chez la femme. Les symptômes d'une cystite, on va y revenir, mais la chose la plus importante, c'est que...
Elle touche uniquement la vessie.
Exactement, et qu'il n'y a pas de fièvre.
D'accord, c'est une infection bactérienne, en fait.
Exactement. Mmh. C'est une infection bactérienne. C'est les bactéries qui provoquent, sont les bactéries qui font partie de notre flore du tube digestif, du côlon. Donc, c'est des bactéries que nous avons à l'intérieur de notre corps et qui peuvent se retrouver dans la vessie de manière tout à fait banale et souvent sans forcément déclencher une infection urinaire.
Et alors, pourquoi les femmes sont plus sujettes ? C'est une question d'anatomie ?
Oui, alors c'est un vaste sujet. Il y a l'anatomie. Alors, classiquement, c'est ce qu'on nous enseigne, que c'est l'anatomie de la femme et la différence de longueur entre l'urètre chez la femme et chez l'homme. Et donc, le fait qu'effectivement, les bactéries peuvent se retrouver plus facilement dans la vessie chez la femme. Mais on sait maintenant que probablement la réponse est beaucoup plus complexe que ça. Il y a sans doute d'autres facteurs liés à l'influence des hormones, liés à l'influence du système immunitaire, un lien avec l'environnement hormonal. Et ça, c'est des sujets de recherche parce que finalement, ce domaine des infections urinaires, il manque encore beaucoup de recherches et des épreuves scientifiques.
Alors, on a commencé à évoquer différentes infections urinaires, la cystite. En cas de complication, si on ne traite pas cette cystite, elle peut donc devenir une infection et remonter, en fait, en dehors de la vessie.
Oui, on dit que chez la femme comme chez l'homme, l'infection peut dépasser le cadre strict de la vessie et toucher les reins. Donc ça, c'est le cas chez la femme et chez l'homme. Et ou la prostate, donc que chez l'homme, bien sûr. Et dans ce cas-là, typiquement, on va dire surtout quand l'infection touche les reins, le signal d'alarme, c'est la présence de la fièvre.
C'est ce qu'on appelle une piélonéphrite.
Une piélonéphrite, c'est ça ? Tout à fait, exactement.
Donc la fièvre, premier symptôme, premier signe d'alerte. Alors justement, parlons de symptômes. Docteur Kalin, quels sont-ils ?
Les symptômes d'une cystite sont des envies pressantes d'uriner, des brûlures, des douleurs en bas du ventre. Parfois, il peut y avoir un changement des aspects des urines qui sont souvent troubles, malodorantes. Parfois, il peut y avoir du sang dans les urines. Voilà, donc envies pressantes, fréquentes d'uriner. On va beaucoup uriner pour des petites quantités finalement et ça va être gênant. Il va y avoir un disconfort.
Et alors, quelles sont les causes ? Elles sont multifactorielles, évidemment, mais est-ce qu'on peut citer les plus fréquentes ?
Bien sûr, les causes sont multifactorielles et en partie aussi, parfois, pas très bien connues. Mais dans les choses qu'on sait et qui sont prouvées scientifiquement, je vais commencer par l'importance de l'hydratation.
Encore et
toujours.
Qui
est vraiment, vraiment, on ne le dirait jamais assez. La première mesure à prendre et la première chose à vérifier quand on est sujet à des infections urinaires. Parce que en se hydratant bien, en bouvant, en allant uriner de manière correcte, sans se retenir, etc., en fait, on empêche les bactéries de proliférer à l'intérieur de la vessie. Voilà, donc ça serait la première chose. Après, on va partir dans une diversité des cas, parce que les infections urinaires peuvent toucher les femmes jeunes, les femmes en post-ménopause, la femme âgée, et là, il y a tout un environnement très différent entre ces différents cas de figure.
Là, vous faites allusion à la ménopause, c'est ça, qui est un trouble hormonal ?
Exactement, parce qu'on sait maintenant que l'environnement hormonal est quelque chose qui va influencer, qui va avoir une influence sur la multiplication des bactéries. Chez l'homme aussi, il peut y avoir des différents cas de figure, quand la prostate est atteinte ou pas. Mais en tout cas, il y a des maladies où le fonctionnement de la vessie est déficient, exactement. La vessie ne fonctionne plus bien, la vessie ne se vide plus. Et là, on va rentrer dans tout un autre cadre de pathologie.
Alors, pour tout de suite faire tomber une fausse croyance, avoir une infection urinaire, ça ne veut pas dire qu'on a une mauvaise hygiène.
Absolument pas. Oui. Absolument pas. Et en fait, c'est tout à fait normal, en fait, d'avoir de temps en temps des bactéries dans les urines. La présence de bactéries dans les urines ne signifie pas forcément une infection. On n'est pas, d'ailleurs, chez la femme, on peut avoir ce qu'on appelle une bactériurie asymptomatique, donc la présence de bactéries dans les urines sans pour autant que ce soit une infection urinaire et sans nécessiter un traitement. En tout cas, ce n'est pas une question d'hygiène.
D'ailleurs, parfois, à trop être hygiénique, on peut déclencher une cystite.
Oui, alors on peut surtout modifier l'environnement local. C'est très important, l'environnement, surtout chez la femme, l'équilibre entre la flore vaginale, la flore au niveau du périnée. Et oui, si tout déséquilibre peut être source de problèmes urinaires aussi.
On va bien sûr parler des traitements et des moyens de prévention. Tout de suite, un premier témoignage en direct. On part pour le Tchad.
RFI à N'Djamena, 100.2 FM.
Et on accueille Amira, 34 ans, qui nous appelle de N'Djamena. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
On vous écoute, Amira.
J'ai une petite préoccupation par rapport à mon état de santé. Mm-hmm. J'ai plein 10 ans.
Est-ce que la liaison a été coupée? On vous entend très mal, Amira. Est-ce que vous pouvez essayer de vous rapprocher peut-être de votre téléphone? On va essayer. Sinon, je...
Je dis, disons que j'avais une infection urinaire. Et ça remonte à 8 mois à peine que j'ai consulté un médecin qui avait identifié certains des cristaux dans mes urines et qui m'a recommandé de beaucoup boire de l'eau et de ne plus consommer beaucoup de sucre.
Je suis désolée, Amira, mais vraiment, la connexion téléphonique est mauvaise. Donc, on va essayer de vous rappeler, mais en attendant, j'ai votre témoignage sous les yeux. Donc, je vais me faire votre porte-parole, si vous voulez bien. Vous nous appelez parce que vous avez des infections urinaires depuis une quinzaine d'années. Vous avez déjà pris beaucoup d'antibiotiques en automédication, ça je le souligne, pour notre docteur sur notre plateau qui va vous répondre. Et vous allez aussi régulièrement chez le médecin quand même qui vous a diagnostiqué en surpoids. Et il y a 8-9 mois, vous avez fait quand même des analyses d'urine et on vous a détecté des cristaux. C'est ce que vous étiez en train de nous expliquer. Et votre médecin vous a dit qu'il fallait boire beaucoup, éviter les boissons sucrées et faire du sport. Donc vous, ce que vous voulez savoir aujourd'hui, c'est plutôt avoir des bons conseils en matière d'alimentation et d'hydratation pour éviter ces infections urinaires. Docteur Kaline, j'ai d'abord deux questions avant de répondre à la question de notre auditrice. Un premier point peut-être sur les traitements médicamenteux qui existent pour soigner une infection urinaire versus l'automédication.
Oui, alors l'automédication... Pour aller directement dans le sujet, l'automédication est vraiment à éviter parce que surtout chez quelqu'un qui souffre des infections urinaires à répétition et donc qui risque d'avoir besoin de prendre des médicaments, des antibiotiques de manière répétée, prendre tout seul des antibiotiques, on peut appeler ça à l'aveugle, en automédication, peut surtout en avoir un impact très négatif par l'apparition de ce qu'on appelle la résistance bactérienne. Parce qu'en fait, les bactéries, si le traitement n'est pas très adapté par rapport à leur profil, et même parfois quand le traitement est adapté, parce qu'aucune prise d'antibiotique n'est pas anodine, et toute prise d'antibiotique peut donner naissance à stimuler l'apparition d'une résistance. Donc, surtout quand le traitement n'est pas adapté, les bactéries ont un risque très important de devenir résistantes, ce qui va compliquer la prise en charge, la prise en charge par la suite. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment éviter. Oui, tout à fait.
Et quel conseil vous pouvez donner à Mira, qui est peut-être encore en ligne avec nous, en termes de prévention, de traitement naturel anti-infection urinaire? À part boire de l'eau, ça on l'a quand même déjà beaucoup dit, mais est-ce qu'il y a des plantes qui sont
Alors,
connues?
Alors, il y a beaucoup de plantes qui ont été avancées comme étant des remèdes qui pourraient servir pour la prévention ou même pour le traitement. Il y a très peu de preuves scientifiques, malheureusement. Alors, on va dire que la plante pour laquelle on a, enfin, ou le complément alimentaire, si vous voulez, pour lequel on a un peu plus de preuves scientifiques, c'est la camberge. Alors, là aussi, ça serait très difficile de vous donner vraiment, de vous fournir les études à l'appui. Il y a des études qui ont été faites. Il y a une certaine efficacité qu'on peut voir vis-à-vis de l'Escherichia coli, mais ça ne marche pas toujours. En tout cas, ça fait partie des compléments alimentaires qui peuvent éventuellement avoir un intérêt.
La canneberge.
Ouais.
On poursuit notre échange avec les questions des auditeurs, j'espère, en direct avec nous, juste après Cococo du collectif originaire de Kinshasa, Mokili, sur RFI. Vous écoutez Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui, on parle des infections urinaires en votre compagnie. Docteur Ruxandra Kaline, infectiologue à l'hôpital Tenon à Paris. Une question, docteur, que je n'ai pas pu vous poser avant notre pause musicale. Est-ce que le surpoids peut être une cause de troubles urinaires ?
Alors, le surpoids, peut-être pas de manière directe, mais le surpoids, surtout quand il est associé à un diabète, va être un facteur de risque pour les infections en général et pour les infections urinaires aussi. Voilà. Enfin, y a, de manière très directe, le surpoids n'est pas une cause d'infection urinaire, mais il peut avoir, être à l'origine de différentes modifications qui peuvent donner une susceptibilité à une infection urinaire.
Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus à risque que d'autres lorsqu'elles déclarent une infection urinaire ?
Oui. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la bactériurie asymptomatique, donc de la présence des bactéries dans les urines sans symptômes. Dans le cas des femmes enceintes, par exemple, on va traiter même cette situation-là. Donc, en fait, les femmes enceintes sont plus à risque de développer une infection urinaire compliquée. Donc, en cas de cystite, il faut toujours traiter.
Et c'est parce que le fœtus, en fait, peut être mis en danger à cause de cette
c'est
infection.
C'est parce qu'il y a un risque plus important chez la femme enceinte d'évolution de la cystite vers une pyélonéphrite, mm-hmm. et donc une infection urinaire fébrile. Et donc, toute infection urinaire fébrile pendant la grossesse peut avoir un impact négatif sur la grossesse, notamment être à l'origine d'un accouchement prématuré, par exemple.
Une question plus pratique, docteur Kaline de Mahamat au Tchad qui nous a écrit sur Facebook. Pourquoi j'ai une infection urinaire à chaque fois que je porte un pantalon trop serré ?
Alors, il faudrait un peu comprendre exactement qu'est-ce qu'il entend par infection urinaire. Est-ce que c'est des signes de, enfin, des brûlures à uriner ? Est-ce que c'est un peu... Alors, on a cette notion, surtout chez les femmes, c'est plus, si vous voulez, une croyance qui n'est pas très bien étayée par des épreuves scientifiques, mais disons que tout ce qui peut influer l'environnement local de la vulve, du périnée, peut déséquilibrer la flore normale et donc peut être à l'origine d'une infection urinaire. Alors, chez l'homme, c'est quelque chose qui n'est pas... Enfin, c'est pas quelque chose qu'on voit, mais il faudrait savoir exactement qu'est-ce qu'il entend par infection urinaire.
Peut-être que c'est une gêne urinaire. Ouais. En tout cas, on a une autre question de Lazare qui est à Cara, qui devait nous parler en direct, mais on n'arrive pas à le joindre. Au Togo, qui nous écrit que depuis 3 mois, après un rapport sexuel non protégé, il a mal quand il urine et il a envie d'uriner régulièrement. Ses urines sont aussi plus jaunes qu'avant. Il dit ça brûle. J'en ai parlé avec mes frères. Ils m'ont dit d'aller voir un médecin, mais je n'ai pas les moyens d'aller consulter. Est-ce que ce sont des symptômes d'infection urinaire ? Qui est-ce que je dois consulter ? Et surtout, question importante, est-ce que ça peut avoir un impact sur ma sexualité ? C'est-à-dire, est-ce que c'est contagieux, je pense ?
On parle des infections urinaires, mais on parle aussi des infections sexuellement transmissibles. Les infections urinaires ne sont pas des infections sexuellement transmissibles. Donc, une bactérie, celle que vous avez citée, par exemple, la Escherichia coli, c'est pas une bactérie associée avec les infections sexuellement transmissibles. La difficulté est que, parfois, on peut avoir des symptômes qui sont similaires entre une urétrite, donc une infection sexuellement transmissible, et une infection urinaire telle qu'on l'a définie jusqu'à maintenant.
Donc le mieux, c'est quand même d'aller faire des analyses d'urine,
c'est
évidemment.
C'est très difficile sans faire des analyses des urines.
C'est le premier réflexe, ce qu'on appelle un ECBU,
exactement.
Pour vérifier la bactérie responsable.
Exactement.
Et puis peut-être aussi un antibiogramme pour tester
exactement.
Sa sensibilité.
Exactement.
En plus, on peut faire une analyse du pH urinaire, mais ça c'est vraiment, je crois, en plus.
Mais pour diagnostiquer une infection urinaire, le CBU est suffisant et c'est quelque chose qui peut se faire vraiment dans n'importe quel laboratoire. C'est vraiment un examen de routine.
Donc merci pour cette question. Je me suis aussi fait porte-voix de Lazare ce matin. Et maintenant, on part pour la Côte d'Ivoire.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
Et c'est donc à Abidjan qu'on espère retrouver Aboubacar. Bonjour.
Bonjour, docteur.
Non, je ne suis pas docteur, mais docteur est là.
Bonjour.
Pour vous écouter. On vous écoute, Aboubacar.
Ouais, je voudrais savoir s'il y a une ressemblance entre une infection urinaire et une prostatite. Si oui, à quel niveau se situe la différence? Merci.
Merci beaucoup, Aboubakar, pour cette question très juste. Docteur Kaline, qu'est-ce que vous pouvez répondre à notre auditeur?
C'est une très bonne question. Donc, la prostatite est une infection urinaire. En plus des urines qui brûlent, des douleurs en urinant, des envies plus pressantes, il y a souvent une douleur en bas du ventre. Donc, la prostate, elle est localisée juste en dessus de la vessie. Et la gêne, la douleur, la pesanteur qu'on ressent, c'est vraiment en bas du ventre. Il y a deux types, on parle de prostatite aiguë et de prostatite chronique. La prostatite aiguë, souvent, s'accompagne par de la fièvre. Donc la fièvre est vraiment un signe d'alerte. La prostatite chronique, elle peut s'installer si une infection urinaire n'est pas correctement prise en charge chez l'homme. Et là, on va avoir des symptômes chroniques. La fièvre n'est pas constante, mais en tout cas, il y a une gêne urinaire constante et cette douleur, cette pesanteur en bas du ventre.
Et encore une fois, comment vérifier?
Alors, toujours le CBU, il faut toujours faire l'examen des urines. Et après, votre médecin, en fonction de votre contexte exactement clinique, de la durée d'évolution des symptômes précis que vous avez, sera vous aiguiller pour dire si c'est une prostatite aiguë, chronique, et adapter le traitement, surtout la durée du traitement médicamenteux.
Donc soit en centre de soins, soit à l'hôpital, soit chez votre médecin, Aboubakar, si c'est possible. Merci en tout cas pour votre participation, pour votre appel. Et là, maintenant, nous accueillons Glody à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue, on vous écoute, Glody.
En fait, moi, j'ai un problème de troubles urinaires depuis 2021. J'avais constaté que lorsque je vais uriner, je devais patienter un peu. Mm-hmm. Donc, ce problème-là m'a conduit jusqu'à voir un urologue.
Très bien.
On avait fait la culture des urines qui était stérile. Ensuite, il m'a fait encore un autre examen, les sécrétions prostatiques. Là, ça avait donné un résultat, une infection, le staphylocoque aureus. Mm-hmm. Mais en 2022, le problème a toujours persisté. Je suis retourné chez l'urologue. On a repris la culture des urines. Cette fois-ci, il y avait l'infection qu'on appelle le Klebsiella pneumoniae. Mm-hmm. J'avais fait également une échographie viscoprostatique. Là, c'était normal. Toujours en 2022, les problèmes ont toujours perduré. Je suis revenu, j'ai fait encore uroculture. Ça a donné les staphylocoques aureus. On m'avait produit des antibiogrammes.
Glody, oui. Aujourd'hui, vous en êtes où? Parce que si vous, on n'a peut-être pas le temps de faire tout votre dossier médical, excusez-moi, mais aujourd'hui, vous en êtes où? Et quelles questions vous avez pour le docteur Kaline?
Oui. Aujourd'hui, en 2023, j'avais un Escherichia coli.
Escherichia coli, c'est la bactérie, oui.
Oui, au flocette. Et en décembre également, j'ai eu un entérobactérie aérogie. On m'avait prescrit aussi au flocette.
D'accord.
Ma question, c'est de savoir pourquoi, après avoir suivi plusieurs traitements, les infections se reproduisent, là, dans un premier temps. Et pourquoi là, j'ai toujours des troubles urinaires malgré toutes les précautions que je prends? Et la dernière question, c'est de savoir le fait de prendre trop d'eau. C'est que j'ai pris d'eau flocette pendant au moins 4 mois.
Un antibiotique.
Donc, je me demande s'il y a des conséquences à long terme.
Merci, Glody, pour toutes ces questions. Docteur Ken, je me tourne vers vous. Plusieurs thèmes abordés.
Oui, tout à fait. C'est une situation qui est vraiment... qui impacte énormément la qualité de vie, et les personnes qui souffrent des infections urinaires à répétition sont vraiment très handicapées par ce problème. Alors, je dirais que souvent, quand les infections urinaires reviennent comme ça, surtout chez un homme, c'est que peut-être la cause de l'infection, la cause qui fait que ces bactéries, il y a des bactéries qui se sont logées, qui s'installent et qui se réinstallent dans la vessie, la cause n'est pas entièrement comprise. Et c'est là où on a absolument besoin de l'urologue, parce qu'il y a des différents examens au-delà de l'échographie qui peuvent être faites pour analyser le fonctionnement de l'arbre urinaire et pour s'assurer que la vessie fonctionne bien, que la vessie se vide bien. S'assurer bien sûr qu'il n'y a pas de foyer prostatique méconnu, par exemple un abcès, enfin, des choses qui pourraient entretenir une infection au niveau de la prostate. Mais là, il y a des bactéries différentes. Il y a des bactéries, la plupart, en dehors du staphylocoque, qui proviennent de la flore digestive. Donc, ce sont toutes ces bactéries qu'il a citées, la Escherichia coli, la Klebsiella, l'Entrobacter, c'est des bactéries qui font partie de la flore digestive. Il parle des précautions, et c'est vrai que c'est pas, comme vous l'avez déjà dit, ce n'est pas une question d'hygiène, ça n'a rien à voir. La seule chose qu'il peut faire, c'est vraiment faire très attention à bien se hydrater. Mais on a...
Et des examens plus profonds,
exactement,
c'est ça,
avec l'urologue, oui, exactement, pour comprendre, s'assurer que le fonctionnement de la vessie et des différents sphincters et de l'arbre urinaire est correct.
Et peut-être qu'il y a une déficience, on va en parler un peu plus tard, du microbiote, finalement, de la vessie, qui est lié aussi à tout ça. Vous restez avec nous, tout de suite, on prend la direction du Gabon.
RFI à Libreville, 104 FM.
Et on retrouve en ligne, en direct avec nous, Dr Jean Massandé. Bonjour.
Bonjour, Raphaël Constant.
Vous êtes chirurgien, urologue, andrologue et président de la Société gabonaise d'urologie, ancien chef du service d'urologie du CHU de Libreville. Docteur Massandé, combien d'urologues vous êtes au Gabon? Est-ce que vous savez?
Écoutez, cette question m'a déjà été posée il y a quelques années et j'avais rigolé puisqu'en principe, à l'époque, nous n'étions qu'une demi-dizaine d'urologues. Mais aujourd'hui, je suis satisfait du fait que nous avoisinons maintenant les 15 urologues.
Donc vous ne rigolez plus aujourd'hui?
Non, je ne rigole pas, évidemment.
Est-ce que vous avez une idée de la prévalence des infections urinaires dans votre pratique?
Ah ben c'est pratiquement au même chiffre que donné par le docteur Ruxandra Kaline. Mm-hmm. Hein. Nous avons à peu près le tiers des consultations en urologie concerne les infections urinaires. Je voudrais quand même faire une précision par rapport à ce qu'on a dit sur l'anatomie, hein, puisque la cystite, c'est vraiment l'apanage de la femme, mais c'est pour des raisons anatomiques. Il y a trois orifices qui sont aligné sur 5 cm, l'orifice anal, l'orifice génital et l'orifice urinaire. C'est ce qu'on a appris à l'école. La deuxième précision que je voudrais par rapport au fait que les IST, les infections sexuellement transmises chez l'homme, peuvent devenir des infections urinaires. Parce que l'urètre est le canal qui va donc de la vessie au méa, donc vers l'extérieur, mais il est entouré par la prostate. De telle sorte que quelqu'un qui a une IST, ça peut, par voisinage, donc atteindre la prostate. Et la prostate étant le carrefour urogénital chez l'homme, nous pouvons donc même avoir une extension de ces infections vers les testicules et donner ce qu'on appelle une orchiépididymie. Donc ça, c'est très important à savoir. Voilà pourquoi, pour des raisons anatomiques, en dehors des IST chez l'homme, et puis de temps en temps, s'il y a une stagnation des urines, une concentration des urines, pour certains qui ont par exemple une hypertrophie bénigne de la prostate, ils peuvent faire une cystite. Voilà les principales causes un peu chez l'homme. Bien évidemment, je suis d'accord avec le docteur en disant que c'est vraiment l'apanage des femmes.
Docteur Massandé, est-ce qu'il y a des facteurs de risque propres au contexte gabonais?
Non, ce sont les mêmes risques. Les infections sexuellement transmissibles par exemple, mais ça c'est fréquent. Et aujourd'hui, malheureusement, il ne s'agit pas seulement des germes comme ce qu'on a décrit, l'Escherichia coli ou même le staphylocoque doré. On peut le trouver maintenant lorsqu'on fait un SBI, on peut trouver même des champignons, des candidats albicans, on peut trouver des parasites. Par exemple, le schistosoma hématobium. Voilà, on peut trouver beaucoup de choses maintenant, c'est ce qu'il y a comme particularité dans les consultations que nous voyons. Donc il ne s'agit plus d'un germe précis, mais de plusieurs germes. Avant, il y a une quarantaine d'années, on parlait du gonot, donc le diplocoque, le Neisseria, qui était le principal agent influent. Mais aujourd'hui, le gonot ne représente que 5%. Tous les autres, ça peut être des champignons.
Et est-ce que les patients viennent vous consulter ou est-ce que c'est plutôt un second, voire troisième recours?
Second ou un troisième, parce que chez nous, les femmes s'adressent d'abord prioritairement à leur gynécologue. Voilà, ça c'est une question d'information. Il est évident que avec le temps, les gens commencent à venir chez l'urologue directement. Mais souvent, nous accueillons les femmes lorsqu'il y a des échecs de traitement antérieur d'une cystite. Lorsque la cystite devient chronique, c'est là maintenant qu'on reçoit un peu les femmes. Voilà.
Mais est-ce que ces femmes vont d'abord voir des praticiens, par exemple, ou pratiquent l'automédication avant de venir vous voir, ce qui retarde en fait la prise en charge ?
L'automédication, oui. Mmh. Mais le tradipraticien, c'est un peu rare parce que en fait, bon, c'est vrai que tout ce qui est en dessous du nombril est à bouche.
C'est ça.
Mais je ne pose pas souvent la question aux femmes. Mmh. Est-ce que vous allez d'abord voir le tradipraticien qu'on appelle vulgairement chez nous le Nganga ? Mmh. Donc, je n'ai pas posé cette question. Mais c'est sûr que... il y a ces pratiques-là que les gens font, forcément.
Mais est-ce que vous diriez que, finalement, les infections urinaires sont prises au sérieux par les patients une fois qu'elles sont vraiment symptomatiques ?
Ah oui, mmh. Ah oui, absolument. Mmh. Parce qu'on peut avoir des cystites asymptomatiques, hein, mmh. comme elle a dit le docteur Ruxandra. Mais c'est lorsqu'il y a vraiment des symptômes, vous voyez des femmes qui, comme elle l'a décrit tout à l'heure, en dehors de ça, vous avez une vessie instable, puisque la vessie, à force de se contracter, elle devient maintenant incontrôlable. Ce sont des femmes qui vont avoir des incontinences urinaires, des forts, etc., etc. Donc vraiment, c'est au stade, à un stade avancé que on nous envoie ces femmes-là.
Pour oui, justement, j'allais vous demander si vous constatez des complications importantes du retard de diagnostic ou de prise en charge.
Ben oui, les complications, c'est la cystite chronique qui est incontrôlable parfois, parce qu'il faut savoir que sur le plan de l'inflammation, de la transformation histologique, les cystites peuvent devenir granuleuses, alors que l'agent pathogène au départ n'est plus. On l'a traité, mais on a l'impression que la cystite évolue pour son propre compte. C'est un peu les constats qu'on voit.
Est-ce que vous avez besoin parfois de recourir à la chirurgie, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes ?
Non, il est rare de recourir à la chirurgie, mais comme on disait tout à l'heure, le mieux, nous allons parfois jusqu'en dehors de l'examen, les CBU, les examens cytologiques et bactériologiques des urines, on est parfois obligé de faire des cystoscopies, parce qu'en dehors de cela, il faut savoir qu'il y a d'autres pathologies qui peuvent donner les mêmes symptômes. Quelqu'un qui a, par exemple, une tumeur de la vessie peut avoir ces symptômes-là. Pour quelqu'un qui a, par exemple, un cancer in situ, hein, ça donne également les symptômes, et c'est à la cystoscopie qu'on peut voir effectivement le type d'inflammation de la vessie.
Docteur Massandé, pour conclure, est-ce que vous avez des conseils, un message important pour les auditeurs qui vous écoutent ?
Alors, moi, je dirais qu'aujourd'hui, c'est une journée fériée au Gabon, parce que c'est la journée consacrée à la femme. Donc, heureuse coïncidence que cette émission parvienne aujourd'hui, c'est donc... une sensibilisation que je voudrais faire à toutes les femmes, de faire attention à leur santé, dire aux femmes que de consulter chaque fois qu'elles constatent des symptômes de l'appareil urinaire, parce qu'il y a des solutions.
Il y a des solutions, il ne faut pas attendre. Merci beaucoup, docteur Jean Massandé, d'avoir répondu à nos questions et je vous souhaite une belle journée à Libreville. Docteur Ruxandra Kaline, on vous retrouve pour quelques minutes pour la dernière partie de notre échange. On l'a dit, la vessie, ce n'est pas une simple poche qui se remplit et se vide. Grâce à son microbiote, elle nous évite certaines infections urinaires. Expliquez-nous.
L'environnement de la vessie est peut-être moins bien exploré que l'environnement du tube digestif. On a tous entendu parler de plus en plus de la microbiote digestif qui est maintenant mise en lien avec de nombreuses pathologies. On ne connaît pas aussi bien ce qu'on appelle le microbiome vésical, mais ce qui est une certitude, c'est qu'il est là et que sa composition a une part très importante pour entretenir un environnement sain et surtout empêcher les infections urinaires. Alors comment, c'est quelque chose que... on est en train d'étudier. Il y a de plus en plus de recherches sur cette thématique-là. Mais il paraît évident que la présence, l'installation de la vessie dans la vessie des bactéries qui proviennent du tube digestif va perturber ce microbiome vésical. Et donc, en fait, on parle... Qu'est-ce que ça veut dire, microbiome ? C'est en fait l'ensemble de bactéries, de virus, de
qui font qu'on a une vessie saine.
Oui, qui font qu'on a une vessie saine. Et y a sans doute un lien entre ça et
pour le bon fonctionnement.
Oui, exactement.
Est-ce que vous avez un message important, un message clé à faire passer pour conclure en quelques mots?
Je suis tout à fait dans la même ligne que
le docteur Massandé.
Que le docteur Massandé. Il faut pas rester à souffrir dans son coin parce que c'est des infections qui ont un impact énorme sur la qualité de vie. Et même quand il n'y a pas de fièvre, donc pas forcément de critères de gravité médicale, c'est pas pour autant que les gens ne souffrent pas, ils souffrent beaucoup et il ne faut pas rester dans son coin, il faut aller consulter parce qu'il y a des solutions.
Des solutions existent, une prise en charge est possible pour une vie plus harmonieuse. Docteur Ruxandra Kalin, merci d'être venue répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes infectiologue à l'hôpital Tenon à Paris, chercheur au sein de l'équipe inflammation et immunité des muqueuses à l'Institut Cochin-Pasteur et au Centre d'immunologie et des maladies infectieuses de Sorbonne Université. Avant de se quitter, c'est What It Is d'Amber Mark sur RFI. Notre émission touche à sa fin, mais vous pouvez réécouter Priorité Santé en podcast sur notre application mobile RFI Pure Radio et sur notre site rfi.fr. Merci à toute l'équipe, Damien Roucou, Louise Calédec, Talim Pouot et Pauline Berthélémy à la réalisation, Oscar Jouxtel au téléphone, ou au moins on a essayé avec vous. Demain, on parlera de la dengue, maladie transmise par le moustique tigre. Plusieurs territoires sont actuellement confrontés à une épidémie. On en parle à 9h10 temps universel. D'ici là, prenez soin de vous et belle journée sur RFI.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.